Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Lusitania, votre rendez-vous consacré à l'actualité culturelle lusophone que vous trouvez tous les samedis de 18h à 19h sur Aligre FM. Au micro, Marlène Alves, à la technique, René. Cette année, on fête la création de la loi 1901 des associations. Et donc, Aligre, pendant toute la semaine, va parler et créer des émissions dédiées aux associations. Donc aujourd'hui, pour nous, on va parler des associations lusophones. Et pour découvrir, on va découvrir deux associations lusophones, donc Aligre du Nord et la ADPBA. Et pour nous parler de ces deux associations, nous recevons aujourd'hui Bruno Araújo. Bonjour.
Bonjour Marlène, bonjour tout le monde.
Secrétaire général de l'association Aligre du Nord, située à Ivry-sur-Seine. Il est aussi secrétaire général de la CCPF, Coordination des collectivités portugaises de France. Avec nous aussi Antonio Oliveira. Bonjour.
Bonjour.
Antonio Oliveira, il est secrétaire général de la DPBA, Association pour le développement des études portugais-brésiliens d'Afrique et d'Asie lusophone, située à Paris 14e. Il est aussi conseiller des communautés portugaises de Paris et professeur de portugais dans la section internationale au collège Henri Quin à Bry-sur-Seine.
Sur Marne.
Et Aligre du Nord, c'est une association qui a été fondée en 1914 et la DPBA, association qui a été fondée en 1973. Et je vais vous poser la question à tous les deux. Comment et pourquoi ces associations sont nées? Par exemple, d'abord Bruno.
L'association Aligre du Nord, elle est, comparée à la PBA, elle est assez jeune parce qu'on n'a que 32 ans. Mais elle a été créée par des Portugais qui vivaient autour de soit d'un quartier à Ivry-sur-Seine ou à Ivry ou autour d'Ivry. À la base, c'était pour se retrouver parce que comme beaucoup de Portugais qui ont immigré en France, c'était retrouver leurs racines, coutumes, traditions et vivre des moments ensemble. Donc de là est né le besoin et la réalisation d'une association pour un peu structurer toutes ces activités-là.
Et la même question pour vous, Antonio.
Oui, alors la DPBA, c'est une association qui a été fondée dans les années 73 parce que c'est lié à l'éducation nationale, à l'enseignement du portugais dans le système éducatif français. Parce qu'à l'époque, la grecque venait d'ouvrir un poste, puis il y a eu le CAPES. Et donc, l'objectif de cette association, c'était d'implanter le portugais dans le système éducatif français. Ça veut dire dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Donc, ce sont des professeurs universitaires qui l'ont créé à Rennes. Il y avait, par exemple, un professeur que tous ceux qui ont fait un peu d'études connaissent. C'était Paul Tessier. C'est une référence. Il y avait Canter, par exemple, celui qui a écrit la grammaire. Il y avait une qui allait devenir inspectrice générale, Madame Parvaux. Tout le monde connaît aussi, surtout ici, moi qui fais des études à Sensé, donc
on la connaissait très bien. Là où on est, nos studios aujourd'hui.
Absolument. Donc le but, c'était ça, c'était de développer l'enseignement du portugais, c'était d'apporter une aide aux enseignants. Et dès le départ, il y a eu aussi cette volonté de s'ouvrir à la lusophonie. Alors au départ, c'était uniquement le Portugal et le Brésil. L'Afrique et l'Asie, c'est plus tard, quand il y a eu l'indépendance.
Des Timor.
D'abord des pays africains, des Angola, Mozambique, etc. Et donc c'était en 76 que ça a été élargi. Au départ, c'était ADEPB. Et par la suite, ça a été rajouté à des PBA, donc ouvert à l'Afrique et à l'Asie lusophone.
Et l'Asie, ça a été avec Timor.
Oui, bien sûr.
Ils sont indépendants beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, mais oui. Il y avait Macao aussi.
Oui,
il y avait aussi en Inde quelques vestiges.
Quelques comptoirs.
Exactement.
Alors, on va partir en musique avec Rio do Esquecimento de Adama. C'est un choix de Bruno Araújo. Pourquoi ces chanteurs et cette musique?
Alors, c'est un groupe qui, ces derniers temps, remet un peu la musique traditionnelle au goût du jour. Il y a plusieurs lectures, c'est-à-dire que nous, notre association, elles donnent des cours de concertine, ce qu'on appelle accordéon diatonique. Ils en mettent dans leur musique pop. Cette chanson-là, en plus, elle fait un clin d'œil à Pontlim, à la ville que représente notre groupe folklorique, parce qu'on a un groupe folklorique. Et Alex du Nord, ça vient parce que la plupart des créateurs ou des gens autour de l'association venaient du Nord, Portugal. Donc, c'était un peu la chanson qui identifie aujourd'hui un peu l'association, avec plein de clins d'œil partout entre tradition et modernité.
On va écouter donc Rio do Esquecimento de Adama.
Para ver se te esquecia, mas não me serviu de nada. Afinal ainda te amo e o meu pobre coração ainda está debaixo d'água. Quem inventou que este rio é para esquecer? Não sabe o que é o amor, não conhece esta mulher. Onde é que isto já se viu? Até fui ao soldado lá do rio, a ver se me ajudava a combater este vazio.
D'écouter Rio do Esquecimento de Adama, un choix de Bruno Araújo. Alors, je me tourne à tous les deux et je vous pose la question, quel est votre rôle au sein de votre association? Par exemple, Antonio Oliveira.
Alors, moi, je suis donc secrétaire général. Donc, il me revient de faire une grande partie du travail, comme tous les secrétaires, de mettre en place ce qui est décidé par le CA. Et nous avons, normalement, il y a trois piliers, on va dire. Il y a des événements ouverts au grand public, par exemple des conférences. On a fait, il y a longtemps déjà, mais on avait fait venir José Saramago, on avait fait venir Lobantoun, enfin, pour ne pas parler. Même César Yèvre, qui était venu à l'époque, c'est la DPV qui l'a fait venir la première fois en France, lors d'une exposition Expo Langue. Donc y a ça, c'est ouvert, c'est la lusophonie. Ensuite, il y a l'appui aux enseignants. Alors là, c'est des expositions, c'est aussi des affiches de promotion de la langue. Par exemple, quand il y a une journée portes ouvertes, les enseignants veulent avoir un dépliant pour donner, pour inciter les parents, leurs enfants à faire du portugais. Et surtout des concours scolaires pour inciter les élèves à travailler sur un domaine en particulier. Par exemple, cette année, nous avons fait un concours scolaire sur justement le portugais, langue internationale de culture, de communication. Et nous avons remis les prix il n'y a pas longtemps, là, au début juin, à la Maison du Portugal, à la Cité internationale à Paris. Et ça, c'est la deuxième pilier. Le troisième... Bon, il est peut-être le moins actif, mais c'est normalement nous avons aussi comme mission d'inciter, de favoriser l'enseignement du français dans les pays lusophones. Donc chaque fois, par exemple, quand il y a eu la saison France-Portugal, oui. On a travaillé en collaboration avec l'Association des professeurs de français au Portugal et on a lancé un concours en commun. Et donc ça, c'est une des priorités aussi, c'est de développer le français dans les pays lusophones.
Donc c'est un peu votre rôle au sein de l'association.
Ah oui.
En plus d'autres, bien d'autres. Mais on parlera tout au long de l'émission. Alors, Bruno Araújo.
Alors, en tant que secrétaire général de Nosarlacs do Norte, ma mission, elle est un peu variée. C'est dans le sens où on essaie de rendre de service beaucoup. Bon, il y a toutes les tâches administratives qui vont derrière une association, qui sont un peu rébarbatives, mais nécessaires.
Nécessaires, oui.
Voilà. Et après, c'est la mission aussi d'essayer de rendre service et répondre aux questions. On est interpellé par beaucoup de personnes de différents horizons. Donc avec ce rôle un peu de secrétaire, que ce soit via des courriers, soit par des mails aujourd'hui en digital, essayer d'être le plus réactif possible pour pouvoir répondre aux questions et aux doutes. Des fois, c'est des demandes qui sont totalement imprévisibles. Par exemple, des gens qui sont qui cherchent justement comment apprendre le portugais. Bon, ça c'est prévisible, pardon, mais ou d'autres fois, c'est on a eu le cas sur de la santé. Et parce que justement on a cette facilité à parler en portugais par la nature de nos origines et tout ça, donc les gens se sentent à l'aise à venir nous parler. Et après, on essaie de rediriger vers les bons interlocuteurs. Et donc la casquette un peu de secrétaire va dans une largesse assez grande de l'administratif de l'association. Donc on a des membres, donc toute cette partie de communication avec les membres et la casquette plus large avec les gens qui découvrent l'association. Donc essayer de capitaliser là-dessus, de leur rendre le plus d'informations possible.
Et Bruno Araújo, qu'est-ce que signifie le nom Alegres do Norte et pourquoi? Vous avez parlé un peu déjà de ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail?
Alors C'est assez facile quand on connaît un peu l'ensemble des gens ou l'historique des gens qui ont composé la création de l'association. Parce que comme une grande partie du peuple portugais qui est parti après la Révolution ou avant la Révolution d'ailleurs, surtout comme la génération de mes parents, ils venaient du nord du Portugal.
Beaucoup.
Beaucoup. Et
mais aussi du centre et du sud.
Voilà. Et le fait que Alegres do Norte, c'était pour un esprit de fédération, fédérateur, de se dire, il y avait toutes les personnes qui ont créé l'association pouvaient être soit de la ville de Vila Verde ou de Pontelima ou d'à côté. Donc, pour ceux qui se situent en géographie, Pontelima, c'est la ville la plus ancienne du Portugal et qui est dans le nord, qui est dans la région de Alto Minho. Et donc, vu que la plupart des gens venaient
ces régions-là du nord.
Voilà, et que l'esprit c'était quand même joyeux, donc alegre, donc Alegres do Norte, les joyeux du nord, ça englobait tout le monde de n'importe quelle ville.
Et quelles sont les activités de l'association? Parce que, vous recevez bien sûr les personnes, vous parlez portugais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette association?
Alors, par ces 32 ans d'activité, il y a eu énormément de choses différentes qui sont passées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais c'est une de nos batailles. On a donné des cours de portugais. Ce n'est plus le cas parce que c'est la complexité de ce sujet fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va essayer de se battre pour ça. Mais aujourd'hui, par exemple, le vendredi, c'est le jour dédié à la musique. On a des locaux à Ivry-sur-Seine. Donc, n'hésitez pas à nous visiter parce qu'ils sont ouverts tout le week-end et ils sont ouverts à tous. Et donc, le vendredi, on donne des cours de musique. Ce que je disais, c'est l'accordéon diatonique, mais connu en portugais sous concertina. Et j'aime bien aussi faire savoir comment ça s'appelle en français, parce que beaucoup de personnes me disent « Ah, mais je ne connaissais pas. » Maintenant, vous cherchez accordéon diatonique, vous savez. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Notre plus jeune élève de cette année, c'est avec fierté que je peux dire qu'il a 88 ans. Donc il a commencé la concertine à 88 ans, donc il n'y a jamais de limite.
Il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre.
Pour apprendre, pour commencer. Donc moi je me dis, j'apprendrai bientôt un jour. Parce que moi-même je n'apprends pas, mais c'est dans mes objectifs. Ça c'est la première partie de journée, de fin d'après-midi. Le soir, à partir de 21h, on accueille la Banda Filarmonica Portuguesa de Paris qui fait leur répétition dans nos locaux. Donc c'est la spécificité de ce groupe musical qui est le seul en France, le seul en dehors du Portugal, en Europe. Donc c'est des instruments à vent, des saxos, des clarinettes et tout l'esprit de Filarmonica qu'on connaît au Portugal.
C'est qu'au Portugal, on appelle uma banda.
Exactement, uma banda. Donc, comme accordéon diatonique, il y a aussi ce travail de faire découvrir les... Et c'est ça qui est intéressant. Quand je dis qu'on répond à des questions, c'est qu'on a beaucoup de questions qui viennent de francophones, mais pas encore de lusophones, ou des personnes qui sont en train d'apprendre notre culture. Donc, on fait découvrir tout ça. Le samedi, à cette heure-ci, sans doute dans nos locaux, on écoute la radio et sans doute à l'Aigle FM aujourd'hui. Donc c'est un espace ouvert à tout le monde à partir de 15h. Donc c'est un peu la salle des rencontres. On peut venir boire un café, discuter avec des amis, rencontrer des gens. Quand on n'a pas d'activité déclarée, c'est-à-dire...
un lieu de convivialité.
Exactement. Donc c'est notre lieu de convive. Et à partir de 21h le samedi, c'est l'entraînement du groupe de danse qui est aussi à l'origine de la création de l'association qui est née dans la même période. Et le dimanche, c'est ouvert aussi à partir de 15h, donc pour toute la suite. Et en ce moment, il y a une grosse activité. On passe tous les matchs du Portugal et tout le monde se retrouve pour regarder le football ensemble.
Évidemment. Et vous m'avez parlé de votre groupe de danse et ces costumes qui sont si jolis. Est-ce que ces costumes, ils viennent directement du Portugal ou vous les faites faire ici?
C'est quasiment... Ça serait mentir de dire qu'ils sont faits ici, parce que je n'ai pas connaissance que quelqu'un le fasse en France. C'est tellement une activité forte au Portugal avec tout l'art de la couture, de la broderie. Donc tout vient du Portugal et bien souvent, comme je disais, Arlex do Norte, donc le groupe de danse représente la technique et les vêtements sont aussi de la région nord. Donc quand on a cette information, on voit les choses différemment avec... Justement, on arrive à décrypter le sens de la mode du siècle passé.
Est-ce que vous avez des nouveaux projets pour les mois à venir? Parce que là, ça va être bientôt les vacances, c'est sûr. Ouais. Les Français et les Portugais sont partis en vacances juillet-août. C'est des mois un peu bâtards, on va dire.
C'est la fin de la saison, c'est ce que j'appelle la fin de la saison. Et nous, c'est la fin de la saison pour nous tous aussi. Pour vous dire un peu, la semaine dernière, on a accepté l'invitation de la ville, on a investi la guinguette de la ville. Donc c'était un des projets qu'on a fait la semaine dernière et qu'on va répéter l'année prochaine sans doute. C'est montrer notre culture en dehors des murs à tout le monde. Donc que ce soit par la musique, le spectacle. Et l'année prochaine, la saison prochaine, c'est au minimum répéter ce qu'on sait faire. C'est-à-dire célébrer les dates importantes. On célèbre tout le temps le 25 avril, c'est important la mémoire, c'est important de le faire. Cette année, on a créé un peu des groupes de discussion, on a fait parler les gens, on a dénoué, fait parler les souvenirs. L'objectif, c'est aussi d'enregistrer cette mémoire, de la capitaliser, de la faire partager aux familles.
Les plus jeunes, peut-être.
Aux plus jeunes, qui connaissent pas leur...
Qui oublie un peu ces moments difficiles au Portugal, la plus longue dictature d'Europe.
Parce que moi, je parle en mon nom, mais la génération de mes parents ont beaucoup de mal à parler, parce que c'est sans doute des souvenirs très difficiles. Donc ça, c'est un peu le côté histoire. Après, tout le long de l'année, on essaye de promouvoir le portugais, que ce soit par le cinéma. On a une superbe relation avec le cinéma de la ville et c'est dans nos objectifs, c'est au minimum un film en portugais présenté à nos membres, que ce soit, et c'est pour ça que je dis un film pas forcément portugais, mais un film en portugais, parce que si l'histoire et le contexte est intéressant, Le faire partager à tout le monde,
de nationalité.
Exactement, c'est l'étiquette de la lusophonie avant tout. Et c'est ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est de faire découvrir justement quelque chose qui ne va pas passer à la télévision dans les prochains jours. La semaine dernière est sorti Introncamiento. On a eu la chance de faire l'avant-première en fin d'année 2025, alors qu'il est sorti uniquement la semaine dernière en France. Donc nos membres sont un peu privilégiés là-dessus. Et après, voilà, les rencontres avec le théâtre, parce que aussi le théâtre.
Oui, parce que vous avez beaucoup de liens avec la ville d'Ivry-sur-Seine.
C'est-à-dire qu'on.
Avec les institutions.
Les institutions, je pense qu'on a cette facilité à se dire qu'on a notre place dans la ville et il faut partager. Il faut partager et je pense que tout le monde est friand de culture, mais il faut savoir la mettre en forme et la présenter. Et après, les institutions culturelles aussi sont. Des fois, c'est un peu le rôle de l'association de faire le relais parce qu'elles n'arrivent pas forcément à aller chercher les gens par les moyens classiques. Et donc, nous, on essaye de faire ce pont entre eux et nos membres ou les gens autour de nous pour leur dire bah justement, regardez, dans 2 semaines, il y a le théâtre qui propose cette pièce-là. Venez avec l'association, on va créer un groupe et on va y aller tous ensemble parce que ensemble peut-être c'est plus facile à y aller que de se... j'ai une anecdote assez dingue, c'est que quand on a fait l'année dernière un autre film qui s'appelle Covas Barros, donc sur la situation des mines de lithium au Portugal, j'ai quelqu'un qui a amené sa mère au cinéma et qui m'a dit tu te rends compte, ma mère elle est venue au cinéma parce que l'association a proposé et a insisté et c'est la première fois qu'elle est venue au cinéma et sa mère a 63 ans. Donc ça c'est une victoire. C'est une victoire pour tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que justement casser les barrières psychologiques entre la culture et nous et tout le monde quoi. Donc l'association a ce rôle d'intermédiaire à travers son histoire par le passé. Et aussi, des fois, on fait aussi. Encore récemment, on a reçu une artiste portugaise qui, pour son prochain film, avait besoin de faire du recueil de témoignages. Donc, on essaye de faire parler les gens entre eux. Donc, tout ça, c'est ce qui nous anime toute l'année, tout le long de l'année. Donc, suivez-nous, vous verrez les prochaines. les prochains projets.
Donc l'association depuis sa création en 94 a beaucoup évolué aussi.
Ah oui, c'est un peu ce qui anime en fait, c'est l'énergie des gens qui sont dans l'association. Aujourd'hui, moi je vous parle de ça avec facilité, mais j'ai pas connu le moment de la création. Donc le moment d'avoir du courage, de se dire on va aller en préfecture, déposer notre dossier, faire ça, et après derrière d'autres équipes qui ont dit et si on proposait le portugais, on va se battre pour le portugais. Donc moi là je vous parle de culture, de cinéma et de théâtre avec facilité parce que je suis à l'aise là-dessus, mais une prochaine bataille, s'il y a un spécialiste autour de nous, pour le football on a des spécialistes et c'est eux qui prennent ces projets par exemple.
Alors comment on peut adhérer ou participer à vos activités?
Alors, nous, nos activités, elles sont ouvertes à tous.
Est-ce qu'il y a des sites internet?
On a notre site internet qui est un peu notre point de référence, on va dire, où on met des choses. Mais sur les réseaux sociaux, on est beaucoup plus actifs. Donc, tout est disponible sur les réseaux sociaux, sur nos calendriers. Après, il ne faut pas hésiter à venir dans nos locaux. On est là et... Si la personne que vous trouvez à l'association n'a pas forcément tout de suite la réponse, on l'aura dans les jours à venir. Mais pour adhérer à notre association, c'est venir remplir une petite fiche avec les informations qui nous permettent justement aussi de savoir... parce qu'en fait, il y a aussi ce côté... chaque personne qui vient à l'association, des fois, apporte aussi une idée ou une réflexion qui, derrière, peut alimenter un projet. Donc... n'hésitez pas à venir et à vous faire connaître et
derrière, à participer.
Et à participer. On a fait un marché de Noël pour vous dire, Noël 2025, c'était la première fois qu'on le faisait. C'était un test, on a adoré l'idée, on a adoré ce qu'on a présenté, parce qu'on a présenté aussi bien, de la culture culinaire comme de l'artisanat. Et plus tard dans l'année, il y a des gens qui sont revenus nous voir parce qu'ils nous avaient découvert au marché de Noël. Donc on leur a présenté nos spécialités en plus de Noël, chose qui est assez rare. On a ouvert ça aux Français et à tout le monde qui est autour de la ville. Et donc derrière, ça alimente. Et on a des gens qui sont membres de l'association, qui n'ont pas de rapport avec le Portugal, mais ont créé une sensibilité et qui derrière sont... soit commence à apprendre le portugais par la musique, soit par différents...
Les échanges.
Les échanges, exactement.
Alors, on va écouter encore un morceau musical. Jonas Moraria Moirana, un choix encore de Bruno Araújo. Pourquoi ?
Alors, Jonas, c'est un peu cet élément de la fraîcheur musicale aussi qu'on a. Pour vous dire, c'est un artiste qui s'est présenté par son spectacle à Ivry, donc dans le théâtre d'Ivry-sur-Seine. Et il a été en présentation dans toute la France sur un spectacle qui s'appelle Bad Fado, où c'est une recherche de l'histoire du fado mise en scène, chantée et dansée. Donc à travers son travail, il montre l'origine aussi du fado dansé.
Voilà, parce que les fados
se dansent.
Pour ceux qui ne le savaient pas, il était dansé dans le temps.
Exactement.
Comme le jazz aussi.
La musique est faite pour se vivre. Et donc cet artiste-là, on a eu la chance de le voir en concert. En tout cas, pour ma part, je l'ai vu à différents endroits, aussi bien dans ma ville, dans la ville de résidence de l'association, comme au Portugal. Et avec la CCPF, on a mis en évidence son prochain spectacle lors d'une célébration qu'on avait fait pour le 25 avril, les 50 ans du 25 avril. Et c'était aussi, c'est un artiste et son groupe qui donne par l'histoire, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais une bouffée d'air frais sur le fado en allant chercher les origines du fado.
On va l'écouter, ouais. Donc Jonas, avec le morceau qui s'appelle Moraria Moirana, Moirama. Ouais. On l'écoute.
Se te faltar forças, se a saudade apertar, lembra-te do mundo inteirinho que em ti vem dormir e sonhar. Se te faltar forças, se a saudade doer, lembra-te do mundo inteirinho que em ti vem viver e morrer. Alma, tu gaiafro, tu tens mil cores. Cabo mundo em teus becos, tens mil bocas a cantar, cravos brancos e pretos. O teu cheiro vai da goiaba até ao pomar. Passo em ti, piso o teu chão que tanta gente pisaram e pisarão. Pés que pisaram todo inteirinho esse mundão. Passo em ti, piso o teu chão que tantas gentes pisaram e pisarão. Pés que pisaram todo inteirinho esse mundão. Ai, 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 ai. Par em par,
passo em ti, piso o teu chão que tantas gentes pisaram e pisarão, pés que pisaram todo inteirinho esse mundão.
Passo em ti, piso o teu chão que tantas gentes pisaram e pisarão, pés que pisaram todo inteirinho esse mundão.
A saudade apertar, lembra-te do mundo inteirinho que em ti vem dormir e sonhar. Se te faltar forças, se a saudade doer, lembra-te do mundo inteirinho que em ti vem viver e morrer.
Se te faltar forças, se a saudade apertar,
lembra-te do mundo inteirinho que em ti vem dormir e sonhar.
Se te faltar forças,
vem viver e morrer.
Ai, 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 ai.
On vient d'écouter Jonas avec le morceau Moraria Moirama, extrait de son CD Massin. Et vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania sur Aligre FM 93.1. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Bruno Araújo, secrétaire général de l'association Alegres do Norte, et Antonio Oliveira, secrétaire général de l'association AD-PBA. Je me tourne maintenant vers Antonio Oliveira, qui est secrétaire, donc, comme je disais, général de la DPBA, qui signifie Association pour le développement des études portugais, brésiliens, d'Afrique et d'Asie lusophone. Cette association est née en 1973, un an avant la Révolution portugaise. Pourquoi et par qui?
Alors, comme j'avais un peu expliqué tout à l'heure, c'était au moment où ça a été créé, le CAPES en France, Et l'agrégation, et donc des professeurs universitaires ont estimé qu'il fallait une association pour développer l'enseignement dans les collèges et les lycées, surtout dans l'université. Donc c'était des professeurs français qui étaient déjà à l'univers à la Sorbonne, par exemple comme Paul Tessier, comme Cantel. Et donc c'est pour ça que c'est une association nationale. Le but, c'était de développer... Bon, dans toute la France, à vrai dire, ils ont commencé d'abord par la région parisienne, c'est là où il y a le plus d'ouverture dans des collèges, dans des lycées. Mais aujourd'hui, l'enseignement du portugais est présent, malheureusement, pas partout.
Il se développe de moins en moins, quand même.
Pas partout, mais dans les grandes villes. Et surtout, il ne faut pas oublier la Guyane. La Guyane, où il y a beaucoup d'élèves qui apprennent le portugais à cause de la proximité avec le Brésil. Donc c'est actuellement, il y a déjà eu 300 professeurs, aujourd'hui il y en a 250, et il y a une bonne centaine en Guyane par exemple. La difficulté, c'est que c'est souvent le passage entre le primaire et le secondaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des accords entre le Portugal et la France depuis les années 70, où le Portugal paye des enseignants pour donner des cours à l'école primaire.
Des enseignants portugais qui viennent ici en France.
Absolument, qui venaient ici en France. Aujourd'hui, certains viennent, d'autres sont recrutés localement. Donc ça, c'est le Portugal qui prend en charge, qui paye. Et ça se fait dans les écoles françaises, dans les écoles primaires. Et la France, normalement...
Souvent ça se fait soit mes crédits après-midi, oui, parce qu'il n'y a pas de cours, ou les samedis quand les écoles,
il y a deux, il y a ce qu'on appelle l'intégré, normalement ça existe, mais effectivement c'est moins, ça se fait pendant l'heure de cours, mais la plupart des cours effectivement elles se font en dehors des heures de cours, c'est souvent le mercredi après-midi, le samedi matin, ou alors dans un autre jour de la journée, en fin de journée, et souvent ça regroupe aussi des élèves de différentes écoles, parce qu'il y a pas, il faut, je crois qu'il faut un minimum de 15 élèves.
Et les différentes nationalités aussi, parce qu'il y en a pas que...
C'est ouvert à tous les élèves qui... c'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'appelait ELCO. ELCO, c'était l'enseignement pour des élèves d'origine. Donc ça s'intéressait uniquement des élèves d'origine portugaise. Pourquoi ? Parce que c'est dans la constitution portugaise. Normalement, le Portugal doit assurer l'enseignement du portugais à tous les Portugais, qu'ils soient au Portugal ou à l'étranger. Donc le ELCO, c'était l'enseignement de la langue de civilisation et d'origine. Et dans les années 2015, ça a été changé. Maintenant, c'est ce qu'on appelle EIL, c'est l'enseignement international de langue étrangère. Donc ça s'adresse aussi bien à tous ceux qui veulent apprendre, qu'ils soient peu importe sa nationalité ou ses origines. Et donc effectivement, il y a aussi beaucoup d'élèves qui ne sont pas du tout d'origine et qui apprennent. Donc ça, c'est l'école primaire. Ensuite, il y a le passage au collège. Et là, la difficulté, c'est que souvent, l'élève a appris le portugais. C'est une heure et demie par semaine. Souvent, il commence en CE1. Il peut le faire pendant 4 ans. Certains le font pendant 2 ans. Et souvent, l'élève n'a pas la continuité au collège. Et donc, c'est une des grandes difficultés. C'est le passage des élèves de l'école primaire au collège. Et on se bat pour ça, justement. Et tout ça est à revoir. Ce passage-là, qui pose un réel problème, parce qu'il y a une perte d'élèves qui n'ont pas de continuité, qui ne peuvent pas continuer le portugais au collège, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le secteur, je veux dire.
Et après, au lycée
Après, au lycée, il y a la continuité, s'il peut le faire, voilà. Effectivement. Par exemple, à Vitry, d'ailleurs, je rappelle que j'ai comme jeune élève à Rouge, il y a longtemps déjà.
Ouais. C'est vrai, le hasard de la vie nous a fait retrouver alors qu'il a été mon professeur au lycée. Et je confirme ce que dit Antonio, j'ai eu de la chance d'avoir du portugais en primaire, une phase sans proposition réelle au collège, et mes parents, soucieux de la continuité, ont investi sur l'enseignement alternatif dans un réseau associatif qui m'a permis de faire du portugais au collège. Et après, quand je suis arrivé au lycée et que j'ai vu l'option, moi, j'ai coché la case. J'ai dit, je vais apprendre du portugais au lycée. Je l'ai utilisé au bac.
Absolument. Donc, il y a encore quelques lycées. Malheureusement, certains se ferment, comme par exemple Champigny, qui est une zone historique. Oui. Où il y avait 3 lycées. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul. Il y avait 4 ou 5 collèges. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Donc, ça, c'est un des vrais drames, quoi, de l'enseignement. Et donc, nous, à notre échelle, à notre niveau, on essaye de faire ce que nous pouvons. Mais bon, ça relève plus du ministère de l'Éducation nationale et du Portugal. Je pense que c'est...
Le ministère d'Éducation nationale française ou portugaise ?
Des deux. C'est parce qu'il y a des accords entre le Portugal et la France, donc ça relève des deux. C'est aux deux de se réunir et de voir ce qu'ils peuvent faire pour développer aussi bien dans l'école primaire que dans les collèges et les lycées. Et ça, c'est uniquement... ça se décide au niveau du ministère. Donc c'est à eux de le faire.
C'est une question politique.
Bien sûr. Alors nous, par exemple, quel est notre rôle ? Nous, en tant qu'association, on peut écrire au ministre, on peut interpeller le ministre de l'Éducation nationale ou le ministre. C'est notre rôle, c'est de soulever. Et ça s'arrête là, malheureusement.
Vous êtes, comment je dirais, un organe consultatif ?
Oui, bien sûr. Souvent, nous sommes consultés aussi par l'ambassade du Portugal. D'ailleurs, l'ambassadeur précédent avait lancé une commission sur l'enseignement, la langue portugaise, où il avait mis autour de la table des associations, des professeurs et aussi des ambassadeurs des différents pays lusophones, parce que pour faire un peu, entre guillemets, pression sur le ministère français, parce que ça, c'est une de nos missions, c'est de faire pression, c'est ce que nous pouvons faire, c'est de dire, voilà, là, ça ne va pas, il faudrait ouvrir le portugais. Après, la complexité, c'est qu'en France, L'ouverture dans un collège dépend souvent du chef d'établissement ou du conseil d'administration. Ça veut dire que si le chef d'établissement est contre, si le conseil d'administration est contre, c'est très difficile. Alors, c'est là que les associations, par exemple, d'abord l'association des parents qui sont présentes au conseil d'administration d'un collège, les associations qui sont dans une ville qui peuvent mobiliser aussi les enfants, dire « mais nous avons des enfants qui... » On aimerait bien ouvrir le portugais dans ce collège. Et voilà, c'est toutes ces actions qui peuvent mener. Mais il faut d'abord convaincre le chef d'établissement. Et donc ça, il faut le savoir. On peut toujours essayer de convaincre un chef d'établissement d'ouvrir le portugais au collège, au lycée. Mais il faut une pression amicale. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les Portugais peuvent voter au municipal et qui peuvent très bien dire ben, on aimerait bien que dans ce collège, même si le collège dépend du département ou du lycée de la région, on aimerait bien qu'il y ait une continuité dans ce collège et qu'on ouvre. Et donc je pense que les associations peuvent mobiliser les parents et elles peuvent jouer un rôle très très important dans l'ouverture des cours.
Et carrément aller parler avec les maires de la ville pour faire pression, puisque exactement, les Portugais aujourd'hui ils votent.
Eh bien, c'est ça. Moi, je pense que les Portugais, malheureusement, ils n'ont pas encore compris qu'ils avaient un pouvoir politique. C'est d'abord de s'inscrire dans les mairies, parce que pour voter, d'abord, il faut s'inscrire. Beaucoup ne sont pas inscrits. Donc, et ensuite, de voter, parce que le maire, quand il regarde les cahiers, il voit qu'il y a tant de Portugais ou tant de qui votent. Et s'ils viennent leur demander quelque chose, peut-être qu'ils seront plus sensibles.
Donc, peut-être.
Encore qu'il faut aussi savoir que... contrairement à ce qu'ils feignent d'oublier, c'est qu'il y a beaucoup de Portugais qui ont la double nationalité. Donc quand ils apparaissent sur le cahier, ils apparaissent sur un nom français, enfin avec la nationalité française. Et en attendant, ils sont d'origine portugaise et ça, ils ont tendance
mais
à l'oublier.
Mais ils peuvent toujours faire pression.
Ils peuvent toujours faire pression, hein, avec la double ou sans la double.
Ou un simple. Un double ou un simple, comme on dirait au tennis.
C'est ça.
Et dites-moi, aujourd'hui, comment ça se passe, ces mouvements de professeurs portugais qui viennent du Portugal pour enseigner? Parce qu'il y a des mouvements de protestation un peu.
Alors en ce moment, ce qui se passe, c'est que, ça c'est le ministère portugais, qui essaie de revoir le régime juridique de l'enseignement du portugais à l'étranger. Parce qu'il n'a pas été revu depuis le 2009. Et donc son idée de départ, c'était de valoriser les carrières, les salaires de ces enseignants. Soit des enseignants qui viennent directement de Portugal, soit ceux qui sont recrutés par l'ambassade,
ministère ici.
Non, portugais. Ça dépend de l'Institut Camões. C'est le ministère des Affaires étrangères qui chapeaute l'enseignement. Avant, il y a des années, c'était le ministère de l'Éducation nationale portugaise. Aujourd'hui, c'est passé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères portugaise. Donc, l'Institut Camões. Et donc, ils ont de plus en plus de mal à recruter des enseignants parce que la carrière, souvent, ils sont affectés sur 2-3 établissements avec des salaires qui n'ont pas été revus et dans des mauvaises conditions. Et donc, ils ont du mal à recruter des enseignants. Donc, le but, c'était, d'après le gouvernement, de valoriser d'abord la carrière, le statut, le salaire, etc. Mais on a, parce que moi je suis conseiller donc des communautés portugaises et je fais partie de la commission de l'enseignement. J'ai été au ministère des Affaires étrangères au Portugal puisqu'on a des réunions thématiques. Et on a demandé, puisque j'avais lu que le ministre des Affaires étrangères avait dit que ça allait être une révolution, donc j'avais demandé. Mais à l'époque, c'était le 28 mai, on ne savait pas grand-chose. Ça nous a été un peu caché, alors que normalement, ils sont censés demander, consulter les conseils, justement. Nous sommes un conseil consultatif. Ils étaient censés nous conseiller. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas dit grand-chose parce qu'on a appris que, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des commissions de services de 2 ans renouvelables. Donc, ça veut dire quelqu'un qui peut faire carrière, il renouvelle. Et là, ce qu'ils proposent, c'est des commissions de 3 ans. Mais renouvelable uniquement deux fois, ça veut dire que ça s'arrête au bout de 9 ans. Et donc, ça veut dire que ceux qui étaient sur le terrain, ils pouvaient, là, sa commission allait s'arrêter là cette année ou l'année prochaine. Et puis ça s'arrête. Et puis, pour enseigner, il fallait rentrer dans ce nouveau régime juridique, justement. Donc, refaire tout de nouveau et savoir que ça allait s'arrêter au bout de 9 ans. Donc, bien entendu, il y a eu des syndicats qui ont protesté. Nous, les premiers, conseil des commissions de communauté portugaise, nous avons réclamé. Il y a eu aussi une lettre ouverte des lecteurs, parce que ça concerne aussi les lecteurs qui allaient perdre dans les universités. Et donc, apparemment, ils ont reculé sur ces commissions-là. Apparemment, ceux qui sont sur le terrain, ils vont continuer. On va renouveler leur contrat. Mais les nouveaux vont rentrer dans ce nouveau système, ça veut dire de 3 ans, renouvelable 2 fois, et au bout de 9 ans, c'est fini. Donc s'ils viennent du Portugal et savent qu'au bout de 9 ans, c'est fini, il faut qu'ils retournent. S'ils ont un poste au Portugal, ils reprennent le poste. S'ils sont recrutés localement, ça s'arrête au bout de 9 ans. C'est là aussi il y a encore un problème.
Ah oui, c'est un gros problème parce que du coup, ça incite pas ces professeurs à enseigner le portugais. C'est pas la peine, autant enseigner autre chose.
C'est ça qui est aberrant, parce qu'au départ, ça partait d'un bon sentiment, en disant il faut revaloriser la carrière, parce que ça fait depuis 2009 que ce n'est pas fait. Donc nous, au départ, on était confiants, on a dit c'est bien, c'est une bonne chose. Sauf que, après, il faut lire entre les lignes.
Voilà.
Et là, c'est...
Bon, on va continuer à parler un petit peu de votre association, même si tout ça est très important, parce que ça veut dire que un de ces jours, pas très lointain, avec cette épée de Damoclès sur la tête des professeurs, l'enseignement du portugais va un peu disparaître.
J'espère que non, mais disons que... encore une fois, ça dépend des parents, déjà. Les premiers, c'est les parents, les enfants. Donc, il faut que les enfants aient envie d'apprendre. Alors, il y a aussi, n'oublions pas, les sections internationales.
Oui.
Et ça, c'est un enseignement qui est valorisé. Les enfants, alors, ils sont au collège, ils sont recrutés sur dossier. Ils ont 6 heures de langue et de littérature, plus 2 heures d'histoire, géographie en portugais. Donc c'est assez intensif, mais ces élèves-là peuvent continuer ensuite au lycée. Et c'est très demandé, non seulement par des élèves d'origine portugaise, mais par toutes les origines.
Toutes les origines, oui.
Et ça, c'est le futur, parce que ça ne se limite pas uniquement aux élèves d'origine portugaise. Moi, je sais que j'ai des demandes tous les ans. Pour moi, les sections internationales sont, je pense, le futur. Après, on ne peut pas ouvrir des sections partout, ça c'est une évidence.
Voilà, les collèges, les lycées internationaux sont très peu nombreux.
Il y a une vingtaine, si on comptabilise, écoles primaires, collèges, lycées en France. Et en Guyane, etc.
Oui, 20 sur je ne sais pas combien, ça fait pas beaucoup.
Alors il y a des établissements, il y a 250 établissements qui proposent le portugais, soit au collège, soit au lycée.
Moi, je pense que le futur de cette langue portugaise, parce que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on apprend, je ne sais pas, l'allemand ou même le latin, qui est une langue morte. Pourquoi ne pas avoir le portugais au même niveau que l'espagnol ou l'italien?
Alors
que le portugais...
Dans certains établissements, ça existe.
Je sens que ça disparaît un peu.
Alors, dans certains établissements, ça existe encore. Le portugais en LV... maintenant on parle à A, B... Avant, c'était LV1, LV2, LV3. Maintenant, c'est LVA, LVB, LVC. Ça existe, non, ça continue à exister, mais c'est une réforme du bac qui a tout fait basculer. Parce qu'avant, quelqu'un qui débutait, par exemple, le portugais au lycée, ou en seconde, il pouvait parfaitement le faire basculer, et la LV3 devenait une LV1 au bac. Par exemple, s'il était un peu faible en anglais, il prenait le portugais en LV1.
Bien sûr.
Ça lui apportait des points, donc il avait tout à fait intérêt. Sauf qu'aujourd'hui, l'élève qui commence en LVC... il peut éventuellement en première, s'il est bon, passer en LVB, et s'il y a la possibilité. Sinon, c'est en contrôle continu. Ça veut dire que c'est en LVC, ça ne compte pas à grand-chose. Donc, ce qui fait que ça n'encourage pas beaucoup d'élèves à continuer à apprendre. Quoi.
Bon, on va suivre en musique avec Pedro Barroso, Viva Quem Canta, un CD du lado de Cademy, qui a été un choix de vous, Antonio Oliveira. Pourquoi ce choix?
Alors, cette chanson n'est pas très récente, mais moi, à chaque fois, elle m'émeut. D'abord, j'aime la voix, j'aime le chanteur. Et puis c'est, il fait justement il revoit un peu tous les courants musicaux dans le pays, Trajmont, Minho, Lintège, donc il revoit ce que la musique populaire propose.
Il fait le nord et le sud, du nord au sud du Portugal.
Exactement. Et donc je pense que c'est bien. J'aurais pu choisir une chanson sur la lusophonie aussi d'un professeur justement de l'école primaire. C'était un Rode dos Sete. Dos Sete, pourquoi c'est les sept pays lusophones? Parce qu'à l'époque, Timor n'était pas encore indépendant.
Bon, ben, on va écouter Pedro Barroso, Viva quem canta.
Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de mil passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito, depois de mil melodias, depois de tantas palavras, tantas terras, tantas estradas, tantas noites, tantos dias. Viva quem canta, que quem canta é quem diz, quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país. O Algarve mandei baile, toquei a dufes na beira, e entre os montes aprendi a bombar como sempreira. Mundo fora, dei abraços nos Açores e na Madeira, deixei amigos do peito e em casa cantei na eira. Viva quem canta!
Voilà, notre émission est presque, touche presque à sa fin, donc malheureusement on ne peut pas écouter tout Pedro Barroso, qui j'aime beaucoup. Ça a été un très bon choix, Antonio Oliveira. Je ne le connaissais pas et j'ai adoré l'écouter. Donc je recommande à nos auditeurs, cherchez sur internet Pedro Barroso, Viva quem canta, c'est super. Vous êtes bien sûr à l'écoute de l'émission Lusitania sur Aligre FM, et aujourd'hui nous avons avec nous Bruno Araújo, de la secrétaire générale de l'association Alegre do Norte, et Antonio Oliveira, secrétaire général de l'association ADPBA. Et une dernière question que je vais poser à tous les deux. Comment les jeunes générations vivent leurs racines portugaises, et quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui hésitent à apprendre le portugais ou à participer à ces associations? Qui veut parler le premier?
Je vais initier la parole. Comment les jeunes vivent le portugais et la portugalité, j'ai envie de dire. Là, on va le voir très vite au mois d'août. Tout le monde va partir en vacances. Le Portugal, c'est très beau. On adore. On ne le parle pas forcément bien, mais c'est les vacances, donc on accepte. Moi, je leur dis, faut continuer sur la démarche des vacances et de se sentir bien en parlant, en vivant le Portugal, mais en France. Essayer de se battre pour apprendre la langue, la transmettre. Rejoindre les associations et proposer des projets, ou rejoindre les batailles, comme l'a dit Antonio, d'essayer de transmettre la langue. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une espèce de relâchement, parce qu'on pense que c'est acquis, que les choses sont faites et qu'elles se font naturellement, mais... Comme l'a très bien expliqué Antonio, les sections et les choix se diminuent, et c'est pas évident. Ça serait dommage de laisser toute cette bataille, toutes ces choses qu'on a acquis. Aujourd'hui, nous, à Alex do Norte, on a un local, on fait vivre la culture toute l'année. Donc participez aussi bien chez nous qu'ailleurs, où est-ce que vous voyez de la culture portugaise, soyez présents. et répondez aux actions pour donner de la force à toutes les personnes qui organisent tout ça.
Et Antonio Oliveira?
Alors moi je pense que les jeunes, moi j'ai vu, parce que bon, ça fait... Mais dans les années 80...
Très rapidement.
Il y avait des élèves, par exemple des enfants qui arrivaient du Portugal, leur langue maternelle c'était le portugais. Donc ils parlaient, ils avaient beaucoup de complexes. Souvent, bon, ils pouvaient se cacher un peu, il y avait quand même un complexe d'infériorité. Et j'ai vu l'évolution. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus de complexes. Enfin, les petits jeunes, ils sont contents, ils mettent leur maillot, ils affirment les couleurs. Et moi, je pense que ça, c'est très bien. Je crois que le Portugal a une image beaucoup plus positive aujourd'hui qu'il avait il y a longtemps déjà. Et moi, je pense que ces jeunes-là, je leur conseille bien entendu, s'ils peuvent apprendre le portugais, non seulement la langue, mais la culture, ça sera toujours un plus pour eux. Bien entendu, ils peuvent faire en anglais. Aujourd'hui, il y a aussi des classes bilingues, ça veut dire qu'en sixième, ils proposent anglais-portugais. Donc ça, c'est une bonne option, parce que les parents souvent ils disent « Ah oui, mais je veux que mon enfant fasse l'anglais ». Bien sûr, il peut faire de l'anglais voilà. Et du portugais en même temps. Et je pense que chaque fois qu'ils peuvent choisir, qu'ils s'inscrivent dans les écoles primaires, que les parents fassent les demandes, et je crois qu'il faut absolument... ça passe par eux. Si eux ne s'inscrivent pas, bien entendu que tout ça, c'est un peu...
Bon, mais de toute façon... Merci à tous les deux. Merci à Bruno Araújo, secrétaire général de l'association Alegres do Norte, dont je rappelle l'adresse, les 28 rue Westermeyer à Ivry-sur-Seine. Merci à Antonio Oliveira, secrétaire général de la DPBA, située au 22 rue des Parcieux dans les 14e.
Mais c'est la maison des associations, nous n'avons c'est pas un local malheureusement.
Voilà, la maison, voilà. De toute façon, c'est au 22
de Parcieux. Rue de Parcieux, oui, absolument.
Dans les 14e.
Et nous avons un site aussi, à dpba.fr.
Et un grand merci à René qui a la technique. Un grand merci aussi à Le Moment qui met ses studios à notre disposition. Et à partir de la semaine prochaine, Lusitania prend ses quartiers d'été. Donc rendez-vous en septembre. Bonnes vacances à tous, à toutes et à tous. Et on se quitte avec un petit clin d'œil, avec une musique rigolote d'Ulinda. Que le morceau s'appelle Movimento Perpetuo Associativo, de Canção Olhada, donc Mouvement Perpétuel Associatif, du CD Canção Olhada. Au revoir à tous, bon week-end et surtout bonnes vacances.
Merci.
Merci à vous deux.
Bonnes vacances à tous.
Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar.
Agora não, que é hora do almoço.